Radio Barque, contre-regard sur l'actualité narbonnaise. Radio Barque 33e. Bonjour Michel Santon.
Bonjour Jean-Claude.
Et bonjour Nicolas Saint-Cluc.
Bonjour Monsieur Jules.
Vous êtes donc aujourd'hui notre invité. Nous reviendrons tout à l'heure un peu plus sur votre parcours, votre jeune parcours, parce que vous êtes en début de carrière très probablement. Rappelons quand même que vous êtes le leader de l'opposition municipale aujourd'hui à Narbonne, au conseil municipal notamment, et que vous fûtes élu il y a quelque temps à peine conseiller, alors non plus général, mais départemental. Nous reviendrons tout à l'heure en détail sur cette nouvelle fonction, sur cette nouvelle tâche. Je rappelle aussi que si vous voulez à un moment donné votre point de vue sur les sujets dont nous allons débattre avec Michel, vous êtes le bienvenu. On ne vous coupera pas la parole. C'est le principe même de l'émission. Alors tout d'abord, un hommage un petit peu, disons, inhabituel dans ce genre d'émission. Un hommage particulier, car comme vous le savez, cette émission Radio Barque consiste avant tout à jeter sur l'actualité local ou national, un regard goguenard, un contre-regard, comme dit Michel Santon. Bref, nous faisons en sorte habituellement que l'actualité soit quelque peu amusante et distrayante. Or, il y a dans l'actualité narbonnaise de la semaine un fait qui ne nous a pas amusés du tout, c'est la disparition d'Ange Ayora. Ce Narbonnais ancien déporté, notamment à Dachau, avait passé la fin de sa vie inlassablement a témoigné pour les jeunes sur ce qu'il avait vécu, expliquant, principalement en réaction aux mensonges colportés par les révisionnistes, expliquant l'horreur et la barbarie nazie, et ceci dans le but évident, comme il le répétait lui-même, que l'on ne soit pas tenté un jour d'oublier. Après son décès le 8 mai, un jour aussi fortement symbolique, cela, évidemment, cette nouvelle nous a profondément attristés. Alors je ne sais pas si Ange Ayora croyait au ciel ou n'y croyait pas, mais on peut se dire que quand on s'appelle Ange, quand on se prénomme Ange, on doit pouvoir trouver la paix éternelle. Et c'est ce que nous lui souhaitons. Michel, tu souhaites revenir sur ce cas parce que tu as dans ta famille un cas qui est probablement aussi douloureux.
Oui, et Jean-Claude, c'est pas sans émotion que je vais en dire deux mots, d'autant que le billet que j'ai commis ce 9 mai, donc le lendemain de la mort d'Ange Ayora, et le jour même où j'ai appris son décès, je mettais en ligne un billet que j'avais mis sous le coude pendant quelques semaines et que j'avais écrit sous forme de brouillon, avant de le publier le 9 mai.
En découvrant un livre ici à Grand Sud FM sur les rayonnages.
Oui, ici même, après une émission que nous avions enregistrée, et descendant au premier étage du studio, j'étais tombé sur un rayonnage rempli de bouquins, et comme à mon habitude dans ce genre de situation, et devant ce genre d'étalage en tout cas, ma curiosité littéraire aidant, j'ai commencé à regarder la tranche des livres qui étaient là.
Et alors, je suis tombé sur un livre de Gilbert Godin, l'historien narbonnais.
Je suis tombé sur l'un d'entre eux, en fait, qui m'a tout de suite intéressé, en fait, hein, Narbonne 1939-45, écrit par un historien du cru que je ne connais pas, je dois l'avouer, à ma grande honte, hein, nommé Gilbert Godin. Et, comme d'habitude, dans ce genre de circonstances, j'ouvre ce livre tout à fait au hasard, et je demande à nos auditeurs de me croire tout à fait au hasard, et je tombe sur la page 120 de ce livre, dans laquelle je lis ceci. Le 9 décembre 1943, sont également arrêtés Comte Maurice, Degeil, Michel. Je ferme les guillemets, la citation.
Qui se trouve être...
Il se trouve que ce Michel Joseph Degeil est mon grand-père maternelle, dont je porte d'ailleurs les deux prénoms. Cet homme que j'ai connu et que j'ai perdu à l'âge de 9 ans avait été arrêté sur dénonciation et déporté au camp de Buchenwald, comme quelques-uns de ses amis que j'ai découverts ensuite, après sa mort, M. Delpoux, M. Piquemal, qui sont revenus en même temps que lui d'ailleurs de Buchenwald. Il était communiste, il était ce qu'on appelle à l'époque chef de rayon, c'est-à-dire l'organisation de base clandestine du Parti communiste français durant l'occupation. Il est mort en 1956. Des suites de cet internement, il était menuisier, Michel Joseph, dans une coopérative bien connue à l'époque, et revenant de Buchenwald, bon, amaigri, malade, enfin bref, il avait été recruté par le maire de l'époque d'ailleurs, dont je crois que c'était un Madol aussi, et il avait travaillé quelque temps au service technique.
Louis Madol, de cette ville. Qui fut maire dans les années 50.
Exactement. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ce moment-là précis, cette date précise, ne m'avait jamais été communiqué par mes parents. Comme s'il ne fallait pas en parler.
Il a fallu ce hasard. Et alors,
il a fallu ce hasard pour qu'effectivement je la connaisse. Je la connaisse et que je la replace dans le contexte historique du moment, en fait, sur le Narbonnais. Et il y a quand même comme ça des coïncidences troublantes quand même. Ange Alora meurt le 8 mai. Le 9 mai au matin, sans savoir que Ange Alora était décédé, je décide de mettre en ligne ce brouillon de billets que j'avais rédigé. Et j'apprends, en fait, après l'avoir mis en ligne, qu'Ange Alora était décédé le 9 mai, donc le jour de ce billet.
Voilà,
il y a comme ça des coïncidences dans la vie surprenante. Alors, je ne vais pas faire de la psychologie de bazar, mais je conseille, en fait, en tout cas, je demande à nos auditeurs s'ils sont intéressés par ce genre de phénomène, enfin, où il n'y a aucune corrélation entre un fait objectif et puis un moment de pensée, de s'intéresser à ce que certains auteurs, comme Jung, ont écrit sur ce qu'on appelle la synchronicité. Ils apprendront beaucoup de choses sur ce type de hasard très curieux.
Voilà. En tout cas, ce que tu nous expliques là coïncide avec ce qu'on avait entendu tous, à savoir que à la sortie de la guerre, beaucoup ont essayé de faire un silence absolu sur des épisodes extrêmement douloureux qu'ils avaient tous vécus, comme s'il fallait absolument oublier. Et ça n'est que plus tard, et Ange Alora le répétait inlassablement à chaque fois qu'on l'interviewait sur cette radio, c'est lorsque les révisionnistes sont apparus, mettant en doute la véracité de l'histoire, que ces gens-là se sont dit « mais non, on ne peut pas laisser faire, il faut témoigner ». Et ce que tu nous dis, le silence dans lequel, toi, dans ton enfance, tu avais été plongé, correspond tout à fait à ça.
Cela dit, je suis persuadé que si mon grand-père avait vécu plus longtemps qu'il n'a vécu, il m'aurait éduqué, il m'aurait informé de ce genre
probablement
d'événements et
de son histoire. Probablement parce qu'à un moment, si je puis dire, la mode, ou en tout cas la nécessité historique a changé, ou la nécessité politique de l'époque a changé. Alors, Nicolas Saint-Cluc, votre avis là-dessus?
Oui, sur la mort d'Ange Alora, c'est vrai que moi, la dernière fois que je lui ai parlé, c'était pour les 70 ans des déportés, l'anniversaire de la déportation. Et c'est vrai qu'il était très affaibli. Il a fait un discours. Il y a eu d'abord des lectures par les collégiens de lettres qu'il avait adressées à sa famille lorsqu'il était déporté. Et il avait été très ému. Et après, il avait pris la parole. Et c'est vrai que malgré son affaiblissement, il disait qu'il voulait vivre le plus longtemps possible
pour
témoigner. Oui, oui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a encore un impact supplémentaire. Et j'ai discuté après avec sa fille, qui aujourd'hui va reprendre le flambeau. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais le conseil départemental distribue justement les livrets sur la mémoire dans les collèges au doigt. Et donc c'est tombé justement entre la semaine du 18 mai et 29 mai. Et malheureusement, donc c'est plus Ange Alora qui nous accompagnera.
C'est sa fille, donc.
Et c'est sa fille qui va continuer. Alors c'est sûr que c'est différent parce que lui, il avait vécu les choses
au premier degré.
Mais c'est vrai qu'elle va passer le relais parce que bien sûr, elle accompagnait beaucoup son papa. Et c'est vrai que c'est très important de continuer effectivement à sensibiliser nos jeunes parce que on peut croire au fur et à mesure que ces personnes disparaissent que c'est de la fiction, que ça ne peut être pas exister. Et c'est vrai que leurs témoignages sont très fort. Alors c'est vrai qu'il y a aussi des vidéos qui sont très bien faites, hein, qui sont diffusées parfois sur des émissions sur Arte, mais très tard. Et malheureusement, il faut continuer effectivement à sensibiliser les jeunes, parce que c'est en regardant aussi les erreurs du passé qu'on ne commettra pas des erreurs du même type. C'est pas des erreurs, c'est des atrocités dans l'avenir.
Voilà. En tout cas, Ange Alora, entre autres, avait consacré tous ses efforts, les efforts de sa vieillesse sur cette tâche qu'il jugeait prioritaire. Alors revenons dans l'esprit habituel, un petit peu plus guilleret quand même de cette émission, Michel.
Oui.
Toi, tu as un petit peu sursauté en entendant l'actuel président de région. évoquer le vœu d'une future capitale de l'agriculture qui serait Montpellier, Toulouse étant la vraie capitale dont on ne sait trop quoi d'ailleurs.
Non mais quand même, enfin, Jean-Claude, voilà un élu, en fait, il n'est pas le seul, hein, de la région Languedoc-Roussillon, enfin de l'actuelle région Languedoc-Roussillon, qui n'a de cesse, hein, de se battre pour valoriser ce territoire, en fait. Et ce qui est encore en fait sa capitale, et qui, en une seule phrase, a mis en fait, au panier de l'histoire pratiquement 30 ans de communication de Georges Frêche sur Montpellier, la surdouée. Une campagne de communication bâtie sur l'idée que Montpellier était la capitale des nouvelles technologies du sud de la France, en compétition avec Barcelone, avec Marseille, Gênes, Milan, Turin, voilà. etc.
Et tout d'un coup, on revient au Moyen-Âge.
Et tout d'un coup, Alary, je ne sais pas qui l'a conseillé, en fait, bon, quelle folie lui a traversé l'esprit, était-il, je crois savoir, en compagnie de présidents de chambres d'agriculture, dont le lobbying à cette région est très important.
Peut-être qu'il a fallu flatter ces gens-là. Alors.
Était-ce après un déjeuner, arrosé de vin du coteau du Languedoc? Je ne sais pas. Est-ce le tropisme aussi de Damien Alary, que je connais bien, je l'ai connu, il était technicien à la DDA du Gard, en fait. Ça pèse quand même quand on a été technicien de la DDA du Gard, hein, et
enfin,
président
enfin, enfin,
de la
DDA du Gard.
Nous sort Montpellier capitale, en fait, agricole, alors que Montpellier dispose d'un capital, justement, en matière de recherche, de transfert de technologie sur l'agronomie méditerranéenne et tropicale, qui fait de cette ville, aujourd'hui, le centre de recherche le plus important de l'Europe entière. Et on nous sort, pour faire concurrence et pour tuer cette idée-là, qui avait été celle de Georges Frêche, on nous sort Montpellier, capitale agricole. Franchement, Damien Alary aurait mieux fait de se taire ce jour-là et éviter de nous placer dans une situation où, comme certains nous l'ont fait sur les réseaux sociaux, on décidait de labelliser Montpellier Pinard Land.
Bien. Alors, une première pause publicitaire qui va vous permettre pendant quelques temps de méditer cette formule.